Bonjour Mathilde, et ce matin dans votre billet culturel, vous profitez de la présence de notre invité, l'écrivain de science-fiction Alain Damasio donc, et de la Foire internationale d'art contemporain qui se poursuit jusqu'au 22 octobre pour vous demander comment les artistes peuvent nous aider à penser notre rapport aux machines.
Bonjour Guillaume. En allant voir Blade Runner 2049, que vous avez vu, la suite de Blade Runner de Ridley Scott, imaginée par le réalisateur Denis Villeneuve, vous vous êtes peut-être demandé, Guillaume, pourquoi cette date 2049 ?
J'ai trouvé, parce qu'en 2049, vous aurez 36 ans.
C'est extrêmement élégant de votre part.
Si... Mais c'est peut-être pas ça.
Non. Si le Blade Runner d'origine, sorti en 1982 et adapté du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, se situait dans le Los Angeles de 2019, nous sommes donc 30 ans plus tard dans le Los Angeles de 2049, dans une société transhumaniste où l'hybridation entre l'homme et la machine s'est considérablement accrue et où les réplicants réclament leur droit à l'humanité puisqu'ils en partagent le patrimoine génétique. 2049, ça correspond en réalité à ce qu'on appelle le point de singularité. Et ça n'est plus de la science-fiction. C'est un point défini par le chercheur Ray Kurzweil, à la tête d'un pôle financé par le géant américain Google. Il a fixé à 2045 la date où la puissance des machines et leur intelligence artificielle sera telle qu'elles pourront s'autonomiser et prendre le pas sur l'homme. Ce Blade Runner 2049 en est l'écho. On n'est plus, comme chez Ridley Scott ou Philip K. Dick, dans la dystopie dont vous parliez Alain Damasio, cette projection dans un futur sombre, voire parano, mais dans une forme prospectiviste raisonnée, disons-le. Le point de singularité, c'est exactement ça sur lequel travaille le duo de plasticiens Fabien Giraud et Raphaël Siboni. Prenons acte de cet horizon et travaillons sur ce monde où, à partir de 2045, la courbe exponentielle du développement des machines monte verticalement en flèche. Comme le souligne Fabien Giraud, l'homme alors n'est plus acteur, il devient de la matière à réagencer. Les machines doivent encoder l'humain, ce qui revient à le chosifier. Se projeter là, c'est commencer à penser ce monde qui vient, faire une petite révolution copernicienne artistique où l'homme n'est plus au centre de l'univers. Comment penser alors sa place ? D'abord, en se rappelant d'où il vient. Ce qui se traduit notamment par une démarche historique chez le duo Giraud-Siboni qui a produit une série de films, The Unnamed, qui revient sur la progression à travers les siècles qui nous a menés à laisser le pouvoir aux machines. Le film 1997, par exemple, démarre juste au moment où le génie des échecs Kasparov perd contre l'ordinateur Deep Blue. L'art comme un espace non plus pour alerter, dans la fameuse tradition dystopique, mais réfléchir. Dans le film The Axiom, du même duo Giraud-Siboni, le narrateur est un jeune garçon du nom de Friedrich. Il est l'incarnation du projet réel du même chercheur Ray Kurzweil, ressusciter son père. Friedrich est à la fois le père de Kurzweil et son fils. Et pose une question qui se posera peut-être demain, comment ça se passera quand les fils engendreront les pères ? Comme le soulignait une autre plasticienne, Dominique Gonzalez-Forster, à propos de son installation refuge à la Tate moderne, où elle se projetait en 2058 dans un Londres noyé sous une pluie éternelle, la catastrophe a déjà eu lieu. Il faut en prendre acte et repenser l'humain dans cet espace. Se confronter à la honte prométhéenne dont parlait le philosophe Günther Anders, qui fut l'époux d'Anna Arendt, dans son recueil d'études intitulé « L'obsolescence de l'homme ». À savoir ce sentiment de faiblesse de la condition biologique humaine, ses souffrances, ses limites, face à la toute-puissance des machines et de la technique. En partant de cette humanité raisonnée, mais aussi beaucoup plus humble, on peut imaginer d'autres possibles, comme vous le dites Alain Damasio, avec votre collectif Zanzibar, désincarcérer le futur. J'ai une question pour Alain Damasio. Le désincarcérer de quoi ? Qu'est-ce qui enferme le futur aujourd'hui ?
Ce qui enferme, c'est une forme de pré-scénarisation qu'on doit aux GAFA, hein, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est-à-dire qu'ils préemptent l'idée que le futur doit être technologique et uniquement technologique, et qui doit être porté notamment par les big data. C'est-à-dire que le prélèvement, encore une fois, des données individuelles est la clé et de la plus-value et du développement de cette société numérique. Et donc nous, on considère qu'en faisant ça, on est comme dans un véhicule qui foncerait sur un mur et que l'accident a déjà eu lieu, je suis d'accord, l'accident a déjà eu lieu, est en train d'avoir lieu, et qu'il faut être extrêmement mobile pour désincarcérer notre petite humanité de ce véhicule-là et lui proposer des futurs alternatifs. Voilà.
Il y a Mathilde Serrel.
Oui, il y a un artiste qui s'appelle Hassan, et là on est toujours dans cette espèce de résonance de la FIAC à l'intérieur du studio pour essayer de voir comment les plasticiens ils s'emparent des questions qui sont proches de celles des écrivains de science-fiction. Il a 35 ans, il est présenté par la galerie Kamel Menour, et lui donc il travaille sur le tracking, c'est-à-dire ces traces dont vous parliez tout à l'heure avec son œuvre Tracking Science. Il enregistre tout ce qu'il fait quand il change son lit, quand il se balade évidemment, quand il mange, etc. Il envoie tout au FBI, qu'il a arrêté pour terrorisme, il a finalement été libéré, mais il est toujours sous surveillance. Il lui dit que le mieux pour protéger sa vie privée, c'est de la rendre publique. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Damasio ?
Non. Absolument pas. Non, c'est une pure catastrophe quand même. C'est exhibitionniste de la donnée, quoi, parce que c'est là-dedans qu'on est, quoi. On est une société de verre, quoi. Voilà, on est citoyen de verre, quoi. Et le citoyen de verre, il est destiné à être cassé, quoi. Voilà, c'est ça notre avenir si on ne bouge pas, quoi.
Avant que vous cachez cette vous donnée, à mettre votre vie privée sur la place publique, Mathilde Serrel, peut-être un peu de musique pour terminer.
J'ai l'impression qu'on est dans le futur.
Le futur antérieur.
Voilà, voyage dans le temps pour l'inauguration hier soir de la nouvelle plus grande salle polyvalente d'Europe, l'U Arena à Nanterre, avec le premier des trois concerts événements des Rolling Stones. 40 000 spectateurs, des tubes entonnés par cœur, un show de plus de 2 heures qui, paraît-il, a mis du temps à décoller. À retenir, Mick Jagger, 74 ans, qui balance en français « C'est une nouvelle arena, on est tous vierges ici, j'espère que les nouvelles toilettes fonctionnent ». C'est le rock'n'roll du futur.
Merci beaucoup Mathilde Serrel.